Esprit de justice,
Antoine Garapon.
Esprit de justice qui va s'intéresser ce soir à la diplomatie scientifique en compagnie de Stéphanie Balme et de Pierre Lemonde. La diplomatie scientifique ne date pas d'hier, notamment avec la Chine. Matteo Ricci a pu pénétrer les cercles impériaux chinois grâce à son savoir astrologique, beaucoup plus que théologique. Et Louis XIV envoyait déjà des mathématiciens en Chine en 1685. Aujourd'hui, la diplomatie scientifique a pris un tour plus préoccupant, tant la science est devenue plus que jamais le langage de la puissance, du pouvoir et d'un pouvoir parfois brutal. Il n'est pas possible, ici à France Culture, d'aborder un tel sujet sans avoir une pensée pour Fariba Adelkha, dont le compagnon Roland Marshall a été libéré, mais pas elle, qui est toujours détenue en Iran, détenue comme une prisonnière scientifique, comme un otage en vue de servir de menée d'échange. Nous nous sommes beaucoup mobilisés pour elle. Matière à penser lui a consacré une semaine entière l'année dernière sur la question des otages. Et c'est pour dire l'actualité brûlante de ce sujet. Actualité dont les enjeux doivent être compris de tous. Et c'est l'importance de notre débat ce soir en compagnie d'une politiste, Stéphanie Balme, qui est professeure à Sciences Po, qui est doyenne du collège universitaire de Sciences Po, c'est-à-dire de tout le premier cycle, qui a travaillé en Chine, sur la Chine, notamment à l'université de Tsinghua, et qui assurait les fonctions de coopération de à l'ambassade de France à Pékin, de service de coopération universitaire, et elle va débattre avec Pierre Lemonde, lui qui est physicien, qui sera avec nous depuis Grenoble, depuis le centre NEEL, où il est chercheur, directeur de recherche au CNRS, il travaille en nanophysique et sur les semi-conducteurs. Mais Pierre Lemonde a été lui aussi à l'ambassade de France à Pretoria, puis à Pékin, sur ces questions de coopération scientifique. Bonsoir Stéphanie Balme.
Bonsoir Antoine Garapon.
Bonsoir Pierre Lemonde.
Bonsoir Antoine Garapon.
Alors ma question elle est naïve, mais comme on va parler de ça ce soir pendant toute l'émission, comment vous définiriez la diplomatie scientifique, Stéphanie Balme?
Alors avant peut-être de définir la diplomatie scientifique qui possède son catéchisme comme toutes les nouvelles sciences, j'allais dire, et on parle très souvent de trois formes de la diplomatie scientifique, hein, la science dans la diplomatie la diplomatie pour la science pour la diplomatie et la science dans la diplomatie, c'est les trois formules. Mais en réalité, je pense qu'on peut aller un petit peu plus loin. Peut-être que je vais laisser à Pierre Lemonde dans une minute le soin de nous dire ce qu'il lui considère comme la diplomatie scientifique du point de vue des sciences dures. Je voudrais quand même saisir l'occasion de vous remercier pour cette attention à l'égard de Fariba Adelkha, qui est une collègue de Sciences Po et qui est aussi une amie, qui a été donc condamnée à 6 ans de prison. Il lui reste 5 ans de prison à Fariba. Elle est détenue dans des conditions qui sont très difficiles. Et dans l'introduction, quand il s'agit de parler de diplomatie scientifique, c'est-à-dire aussi de liberté académique, ça me semble être une attention vraiment tout à fait importante. Donc revenons sur le sujet et peut-être je laisse la parole à mon collègue.
On ne le dit pas complètement, mais enfin, Pierre Lemonde, alors la diplomatie scientifique.
Oui, alors bon, Stéphanie Balme a effectivement donné des éléments un peu génériques pour la définir. Je pense qu'on reviendra sur certains des enjeux plus spécifiques au cours de ce débat. Bon, de manière générique, on peut dire que la diplomatie scientifique, c'est tout ce qui a trait à la science et à la diplomatie. Donc partout où la science a à voir avec la diplomatie et inversement. Mais même si en tant que physicien, j'essaye d'avoir un petit peu de rigueur dans les raisonnements, je pense qu'il n'est pas inutile non plus d'étayer par des exemples ce qu'on entend par la diplomatie scientifique. Vous avez mentionné la diplomatie des otages pratiquée par l'Iran et qui peut être en connexion forte avec la science, en l'occurrence les sciences humaines. Un autre sujet d'actualité qui est très connecté à la diplomatie scientifique et qui permettra d'avoir une idée d'autres aspects de ce champ qui concerne le Covid-19.
Oui.
Alors, bon, bien entendu, le sujet est très vaste, on en reparlera aussi. pays, mais je voudrais peut-être donner l'exemple de ce que la France a fait plus spécifiquement avec la Chine au cours des 20 dernières années sur la thématique des maladies infectieuses,
oui.
Puisque c'est un sujet qui n'est pas du tout nouveau.
Oui, expliquez-nous.
Alors, dès 2003, quand l'épidémie de SRAS a émergé en Chine, les autorités françaises et chinoises, donc réellement à un niveau politique, sont entrées dans des discussions pour essayer de pouvoir conjointement lutter contre ces maladies infectieuses émergentes. Et donc, en 2004, ça a abouti à la signature d'un accord intergouvernemental franco-chinois, donc un accord intergouvernemental qui est un acte éminemment diplomatique, hein, qui portait sur donc la lutte contre ces maladies infectieuses émergentes avec un contenu essentiellement scientifique. Donc, premier volet de ce contenu, c'était la construction d'un laboratoire de haute sûreté biologique à Wuhan.
Le fameux laboratoire P4.
Le fameux laboratoire P4, donc dans la ville de Wuhan que maintenant tout le monde connaît, hein, oui. Au centre de la Chine. Et deuxième volet, donc la mise en place d'un institut Pasteur à Shanghai, en Chine. Donc le programme s'est développé, le laboratoire a été construit, avec l'idée donc de se préparer pour de nouvelles émergences. Mais la diplomatie subtile est faite d'un certain nombre de priorités et la mise en œuvre de l'accord s'est en fait considérablement ralentie ces dernières années, juste avant l'émergence d'une nouvelle maladie qu'on ne pouvait pas prévoir à ce moment précis, mais dont on avait bien l'idée qu'elle émergerait un jour, si bien que l'accord de coopération n'a pas déboucher sur des projets scientifiques tels que l'on puisse être mieux préparé à l'arrivée de cette maladie. Et la France, qui avait mis en œuvre tout ce qu'elle pouvait pour, enfin tout ce qu'il fallait, je pense, pour se préparer à cette émergence, finalement s'est retrouvée dans une situation analogue aux autres pays occidentaux par ce croisement de priorités, si bien que on a ici une illustration en fait de un peu ce que j'espère on pourra discuter dans la suite de l'émission, à la fois la science comme potentiel diplomatique, mais aussi la diplomatie scientifique qui parfois ne parvient pas à ses finalités,
parce qu'elle
est en concurrence avec d'autres priorités.
Alors justement, la finalité, Stéphanie Balm, de la diplomatie scientifique, quand on se dit le SRAS, la santé mondiale, on est vers un horizon pacifique de développement, de co-développement, de partage de la connaissance pour la meilleure santé du monde, mais en réalité, aujourd'hui, la crise du Covid montre tout autre chose, montre à quel point cette crise sanitaire est l'objet de tensions, à quel point la politique est revenue très très fortement dans la science.
Oui, ou tout simplement la crise en réalité révèle cette situation. Alors vous l'avez dit, il y a quelque chose de commun entre la science et la diplomatie, c'est que dans l'idéal, ces deux univers-là ont un objectif qui est la paix et le développement. Mais il y a aussi, ils sont confrontés à des méthodes de travail radicalement différentes où la science a tendance à être naturellement internationale et naturellement ouverte avec ce principe de connaissance ouverte, le fameux open source, alors que la diplomatie est plutôt normalement repliée vers des intérêts qui sont nationaux et dans un non-partage de données qui sont en général confidentielles. Donc et malgré ces difficultés, qui en fait révèlent aussi la question de la place de la science dans le politique et dans l'État, là, à l'échelle internationale de la politique étrangère et des relations internationales, mais qui est en fait un grand classique de la difficulté à allier science et politique.
Oui, parce que vous êtes spécialiste de la Chine et vous montrez très bien que, et c'est pas nouveau d'ailleurs, que depuis très longtemps, vous parlez d'un nationalisme scientifique chinois. C'est-à-dire que la récupération par la Chine de sa capacité scientifique et de pouvoir se replacer dans les grandes nations a été un objectif politique depuis très très longtemps en Chine en réalité.
Alors, il a été un objectif politique de la République populaire de Chine dès 49, mais il n'a pu être mis en accord, en place en fait qu'à partir de 78, c'est-à-dire lorsque l'État maoïste a commencé à se moderniser et a très clairement dès 78 expliqué que la création de la puissance chinoise allait se baser sur la science, allait se nourrir de science. D'où l'étonnement pour nous autres qui connaissons un petit peu la Chine de voir que beaucoup s'étonnent de l'émergence de la puissance scientifique chinoise, alors que cette histoire est écrite. Ancienne, oui, elle est à la fois ancienne, elle a plus de ancienne. En tout cas, elle date d'un peu moins de 50 ans, et qu'on sait désormais qu'il faut à peu près 50 ans pour créer un écosystème scientifique. Donc ça, c'est en fait cette question de l'émergence de nouvelles puissances scientifiques, qui, en créant une puissance scientifique, crée aussi développe une stratégie de diplomatie scientifique. C'est aussi ce que l'on a appris sur le terrain, je crois, et c'est aussi pour ça qu'on essaye d'alerter à la fois les autorités françaises et à l'échelle de l'Union européenne, dans un contexte aussi où la science américaine fait face à de grandes difficultés, y compris sur le plan politique, avec une présidence américaine qui a souvent tendance à être plutôt complotiste et plutôt a tendance à ne pas valoriser les scientifiques. Donc dans ce contexte-là, il nous semble extraordinairement important de parler de stratégie de diplomatie scientifique à l'échelle de la France et européenne.
Alors il y a beaucoup d'éléments dans ce que vous dites, parce que ce qui doit être difficile dans l'élaboration d'une stratégie scientifique, c'est cette partie hybride, on pourrait dire, cette composition hybride de la science, qui est à la fois quelque chose d'universel et de pacifique, et à la fois un objet de puissance et très très particulier à une stratégie. Je pense à la question des étudiants. À la question des étudiants chinois, qui sont extrêmement nombreux à l'étranger, notamment aux États-Unis. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas un dilemme, Pierre Lemonde, entre que faire? Est-ce qu'il faut partager la science avec les étudiants, les non seulement du transfert de technologies, mais de la formation de physiciens, de haut vol? Mais est-ce que, en faisant ça, on ne risque pas de réchauffer une vipère en son sein?
Écoutez, Antoine Guérapon, je crois que plusieurs dimensions dans ce que vous venez de dire. La première, et peut-être que ça permettra de cadrer un peu la suite de la discussion, c'est que la diplomatie scientifique, je pense, doit avant tout être diplomatique et donc répondre à des priorités nationales, à l'intérêt d'une nation sur le plan international, sur le plan diplomatique. Alors, est-ce qu'on peut un peu détailler ces priorités, ces intérêts? Parmi ces intérêts, il y a évidemment le développement de la science du pays en question. Et le développement de cette science passe par l'ouverture, passe par le fait d'avoir des étudiants étrangers qui viennent, passe par le fait d'avoir des échanges ouverts avec un maximum de chercheurs étrangers, avec tous les esprits susceptibles d'apporter au débat, d'aider au développement des sciences.
C'est ce qu'ont fait les Américains avec le brain drain, avec le fait d'attirer les meilleurs étudiants et les meilleurs cerveaux dans leurs universités.
Exactement. Donc c'est une des composantes. On est le brain drain. On attire les meilleurs. Ils viennent travailler chez vous. Mais le simple échange est bénéfique à la science. Le fait, moi, ce que je dis tout le temps à mes étudiants quand ils débutent une thèse au laboratoire, c'est le jour où tu as une idée, surtout tu la gardes pas pour toi, tu viens en parler. Tu en parles à ton directeur de thèse, tu en parles à tes collègues, tu en parles. Neuf fois sur dix, le collègue en question répondra, ton idée est pas bonne parce que pour telle et telle raison, et ça te permettra de gagner beaucoup de temps de savoir que l'idée est pas bonne. Mais si l'idée est bonne, 9 fois sur 10 aussi, le collègue répondra, ah oui, ton idée est intéressante, et d'ailleurs, on peut rajouter, elle me fait penser à ceci, elle me fait penser à cela, et donc c'est vraiment l'essence même du processus scientifique que d'avoir cette discussion. Et ce qui se passe au niveau du laboratoire, au niveau de l'étudiant qui démarre son travail de recherche, est l'analogue de ce qui se passe à tous les niveaux, y compris donc au niveau des relations entre États. Donc vous avez ce bénéfice qui va au-delà du soft power, qui va au-delà du prestige des universités, de leur visibilité, etc., qui est vraiment pour le développement de la science lui-même, qu'il faut prendre en compte dans le débat. À l'inverse, il est évident aussi que quand vous faites ceci, vous formez les étudiants qui viennent ou les visiteurs qui viennent, et que ce savoir-faire a vocation à être diffusé. Donc, évidemment, que quand on parle d'un État autoritaire, voire totalitaire, il faut faire très attention à ce qu'on fait et au type de savoir qui peut être partagé. Mais je pense qu'il est possible de trouver un compromis. Je pense qu'on peut pas travailler de la même manière avec la Chine ou avec les États autoritaires qu'avec d'autres, mais qu'évidemment, il faut travailler avec eux, avec des modalités spécifiques et adaptées.
Stéphanie Balme.
Oui, Pierre Lemond disait que la diplomatie scientifique d'abord se concentre sur des enjeux nationaux qui ensuite sont reliés à des niveaux transnationaux ou globaux. Rappelons aussi, pour également cadrer le débat, que comme vous l'avez dit, la diplomatie scientifique, d'une certaine manière, c'est une vieille pratique, mais c'est une vieille pratique totalement renouvelée avec des nouveaux acteurs et des nouveaux enjeux. Et ces enjeux sont des enjeux totalement globaux. Donc, depuis quand à peu près on parle de diplomatie scientifique sur un mode, moderne, ou en tout cas dans le contexte du 21e siècle, c'est depuis 10 ans. C'est depuis 10 ans pour deux raisons. D'abord, parce que les scientifiques eux-mêmes se sont mobilisés sur cette question, des scientifiques de la Royal Society qui ont...
Les Anglais,
qui ont organisé une conférence qui s'appelait les nouvelles frontières de la diplomatie scientifique. Qui, à l'issue de cela, ils ont publié les actes du colloque, on a commencé à en parler, et puis à Washington, une association qu'on appelle les 3AL, c'est-à-dire l'Association américaine pour l'avancement de la science, s'est emparée du sujet. Donc les académiques, les premiers, ont dit il y a quelque chose qui se passe, qui est de l'ordre des nouveaux enjeux globaux, qui demande un nouveau type de diplomatie qui s'appelle la diplomatie scientifique. Et puis il y a eu une chose très importante autour de 2015. 2015, c'est l'année de l'émergence de la diplomatie du climat, puisqu'à cette année-là, 3 accords ont été signés, 3 événements à l'échelle globale, pas qu'internationale, à l'échelle globale, totale, planétaire, j'allais dire, ont été signés. Un accord sur la réduction du risque des catastrophes naturelles, ça a été la signature de l'agenda 2030 des Nations Unies indiquant les fameux ODD, les objectifs de développement durable, et enfin la COP21 de décembre 2015.
Bien sûr. Alors donc, ça veut dire que les Anglais ont découvert, comme souvent, les problèmes que posaient les nouvelles frontières de la diplomatie scientifique, mais la France dans tout ça, et la France, Pierre Lemond, qu'est-ce que vous pouvez dire, vous, sur la... Est-ce qu'il y a une politique française? Est-ce que les diplomates ont saisi les enjeux nouveaux depuis cette dizaine d'années que la diplomatie scientifique s'est imposée?
Je répondrai oui et non, Antoine Garapon, cela ne vous surprendra pas.
Réponse de Normand.
Une réponse de Normand, exactement. Souvent, les scientifiques, on devrait dire une réponse de scientifique. Pour la partie oui, je crois que la France a été parmi les premiers pays à avoir des représentants dans les ambassades qui s'occupaient de coopération scientifique. Et donc, il y a vraiment eu un côté pionnier, qui s'est inscrit assez naturellement, d'ailleurs, dans le cadre du réseau de coopération culturelle français. Donc, cet esprit pionnier qui a pris en considération cette dimension scientifique. Mais, et le mais est important, cela s'est heurté à une limite importante qui était que la vision essentiellement du MAE était celle d'une vision de soft power, d'influence, et donc de connexion aussi en ligne avec la vision qui était celle de la diplomatie culturelle. Il est évident que de tout ce qu'on vient de discuter depuis le début de l'émission, on va bien au-delà de ça.
Bien sûr.
Et cette vision plus globale, plus large, qui permet de comprendre tout le potentiel et toute l'importance en fait de la diplomatie scientifique, je pense, est assez largement absente des cercles diplomatiques français, avec plusieurs raisons à cela, mais notamment le fait que la formation scientifique des diplomates français est très limitée, disons-le. Et par ailleurs, les connexions entre le monde scientifique et le reste de l'État, et a fortiori donc le monde diplomatique, sont aussi trop limitées. Ben, j'ai pu le vivre au quotidien dans les ambassades.
Stéphanie Balme, comment vous répondriez à cette question? et la diplomatie française dans ce nouvel enjeu de la diplomatie scientifique.
Alors, je vais compléter ce que Pierre Lemonde dit en disant d'une part qu'elle est sur le papier exceptionnelle et pas que sur le papier. Elle a une forme d'ambition et donc juste en complément, je dirais ce qu'elle a de très intéressant, c'est qu'elle intègre les sciences humaines et sociales. Qu'elle n'intègre pas uniquement les sciences, enfin, ce serait déjà beaucoup, mais les humanités sont partie prenante de cette perspective. Par exemple, vous avez le réseau des fameux UMIFR, qui sont des unités mixtes de recherche, qui sont une petite spécificité française dont on peut être assez fier. Mais le problème, c'est que le ressenti sur le terrain, quand on travaille dans une ambassade aujourd'hui, c'est que au minimum, la diplomatie scientifique est soit un sous-produit de la diplomatie culturelle.
Et donc, ce qui est un peu surprenant.
Et qui est un peu surprenant. Et donc, alors, on a une diplomatie culturelle qui est très ambitieuse et on a bien raison et c'est très important pour la France. Mais il n'y a pas d'autonomie de la diplomatie scientifique. Et en fait, c'est un appel à l'autonomisation de la diplomatie scientifique. L'autre chose, c'est qu'en réalité, on s'aperçoit qu'au niveau du pouvoir exécutif, il y a énormément de projets que l'on pourrait qualifier de diplomatie scientifique. Et quand on les regarde ces 10 dernières années, la COP21, par exemple, a été un grand moment de diplomatie scientifique de la France. Mais qu'elle est très très peu reliée avec toutes ces ambitions. Je pourrais par exemple citer aussi la grande ambition actuellement de ce qu'on appelle le PMIA, le programme mondial sur l'IA, que la France et le Canada ont initié il y a quelques mois, et qui en fait est un appel pour la constitution au niveau global d'une IA qui soit une IA respectueuse de la démocratie, des droits fondamentaux de la personne, mais également des données et de l'innovation. Donc cet exemple, qui est un exemple de diplomatie scientifique, eh bien, il est très peu relayé finalement. Une diplomatie scientifique qui serait conçue à la fois par le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et le ministère des Affaires étrangères. Donc il y a un hiatus entre ce qu'on vit sur le terrain, ce formidable réseau et d'une certaine manière certaines ambitions de la France qui sont légitimes. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. 7, 6. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door and I'm floating in a most peculiar way, and the stars look different today. For here am I sitting in a tin can. France Culture,
Esprit de Justice,
Antoine Garapon.
Esprit de Justice, toujours sur la diplomatie culturelle, en compagnie de Stéphanie Balme et de Pierre Lemonde. Pierre Lemonde qui a choisi de nous faire écouter cette chanson de David Bowie, Space Oddity. Pourquoi ce choix, Pierre Lemonde?
Vous avez fait un lapsus intéressant, Antoine Garapon. Vous venez de dire diplomatie culturelle. Oh. On parle de diplomatie scientifique. Mais je vous rassure, c'est très français.
Oui, ben justement, et ben je revendique mon identité.
Bon, pourquoi ce choix? D'abord parce que je trouve cette chanson superbe, hein, mais aussi parce qu'elle a un petit lien avec la diplomatie scientifique. C'est pas complètement évident de trouver de la musique qui soit en lien avec la diplomatie scientifique. Oui. Il se trouve que ce morceau a accompagné la retransmission de la BBC de la mission Apollo 11, qui était un grand moment de diplomatie scientifique, entre autres. de la diplomatie américaine pendant la guerre froide. Troisième raison, ce morceau qui a été enregistré avant ma naissance est un des rares morceaux de l'époque qui trouve grâce aux oreilles de mes enfants. Donc il y a un petit clin d'œil familial.
Mais Pierre Lemonde, dites-moi, on disait que il y avait une des nouveautés ici comme ailleurs de la diplomatie scientifique vient de la nature aussi de la science, de sa fonction, et on pense bien sûr à l'intelligence artificielle. Qu'est la science des sciences, on pourrait dire, qu'est la science qui va permettre de reformuler, de pénétrer tous les autres programmes. Est-ce que là, en matière d'intelligence artificielle, ma question est double. Est-ce que on n'a pas passé un cap? Est-ce que on n'est pas dans une autre dimension? Et est-ce que dans cette autre dimension, la Chine n'occupe pas une place qui, à terme, peut être préoccupante pour nous en termes de dépendance?
Alors, oui, globalement, je pense que oui. L'intelligence artificielle va avoir un impact, va de plus en plus avoir un impact extrêmement profond sur nos vies. Et il est évident que la Chine est très en avance sur ce sujet-là. Alors, très en avance, attention, elle est dans le peloton de tête. C'est-à-dire que vous avez essentiellement trois blocs aujourd'hui qui sont producteurs de sciences dans le domaine de l'intelligence artificielle, ça ne va pas vous surprendre, les États-Unis, la Chine et l'Union européenne. Mais la Chine a des spécificités qui font que qu'on retrouve pas ailleurs, notamment le fait que sur le ce qui est du traitement des données l'éthique de l'intelligence artificielle, les conditions sont évidemment très très différentes et la manière d'envisager ces sujets est évidemment très très différente de ce qu'elle est en Europe et aux États-Unis. Et l'autre dimension, c'est que son écosystème économique autour de ce sujet de l'intelligence artificielle est très développé.
Bah oui, parce qu'il y a énormément de financement.
Alors, il y a énormément de financement et il y a des entreprises, il y a des mastodontes du numérique qui sont l'équivalent des GAFA donc chinois. On pense bien entendu à Tencent, Alibaba, Huawei et Baidu. Mais peut-être Xiaomi aussi. Donc vous avez ces mastodontes, cet écosystème, et la conjonction, un environnement académique de très bon niveau en mathématiques et en informatique, sur les semi-conducteurs de plus en plus. Et je suis convaincu que la conjonction de ces différents facteurs fait qu'il y aura des innovations de rupture chinoises dans ce domaine-là.
Pour l'instant, c'est peut-être un lieu commun, Stéphanie Balm, on dit qu'il y a énormément de troupes, énormément d'argent, mais que la créativité, le ratio des troupes et de la créativité et des chercheurs qui sortent du rang reste quand même plutôt favorable aux États-Unis et à l'Europe.
Alors, c'est une question éminemment complexe et qu'il faut précisément étayer de façon un petit peu précise avec des données. Alors, ce qui est impressionnant, c'est de voir au niveau, par exemple, des indices d'innovation. Donc, on dispose d'un indice d'innovation qui est dit le Global Innovation Index, l'indice global d'innovation, qui existe depuis plusieurs années et qui permet de mesurer l'évolution de la Chine. Et effectivement, la Chine est le pays qui, dans les puissances non classiques, puissances scientifiques non classiques, explose. Et le plus rapidement, j'allais dire. Donc effectivement, il se détache de telle manière à rejoindre le groupe de tête. Donc ça, c'est une chose. Et franchement, la Chine a à la fois une stratégie, se donne les moyens financiers de cette stratégie, a les ressources humaines et a une volonté qui est de passer du statut de puissance d'innovation d'usage à innovation de rupture, ce que disait Pierre Lemonde à l'instant, à travers l'intelligence artificielle. Et par ailleurs, tout ceci sert son projet politique. Donc toutes les conditions sont réunies. En revanche, je pense à un auteur comme Cai Fuli, que certains de nos auditeurs peut-être connaissent, qui a publié un livre en anglais qui a été récemment traduit par les éditions Arène et qui est une forme là aussi de catéchisme qui nous explique que le monde est véritablement un monde 2.0, c'est 2+0, c'est-à-dire les États-Unis et la Chine, que l'Europe n'est pas présente dans cette course-là. Oui. Et c'est là où précisément il faut qu'on ait... Pourquoi l'importance d'une stratégie de diplomatie scientifique? C'est pour décoder aussi un discours qui est un discours qui positionne politiquement les choses de telle manière à écarter l'Union européenne de ce qui serait une exclusivité sino-américaine.
C'est la fameuse blague qui courait dans les chancelleries occidentales. Qu'est-ce que c'est que le G20? C'est le G2...
Plus zéro.
De jeu plus... plus zéro. Mais une question que je voulais vous poser à tous les deux, parce que c'est finalement, est-ce que le fait que le pouvoir soit centralisé en Chine, extrêmement centralisé et extrêmement non démocratique, sert la puissance scientifique chinoise par rapport au caractère très distribué, polycentrique, ouvert, libre de la science aux États-Unis et en Europe? Alors, qui veut répondre?
Je veux bien traduire ce que j'entends de votre question et laisser mon collègue y répondre, parce qu'elle est très compliquée. C'est en fait la question, est-ce qu'un régime autoritaire, voire pré-totalitaire, peut devenir une grande puissance scientifique? Est-ce qu'on peut finalement, sans liberté, sans un contexte de liberté, déployer une pensée scientifique?
Et sans l'ouverture des sciences humaines, paradoxalement.
Et sans interdisciplinarité. Uniquement dans le contexte des sciences.
Alors merci d'avoir très bien formulé ma question.
Est-ce que je peux laisser les sciences dures répondre et puis je viens.
Alors Pierre Lemonde, les sciences dures. Comment vous répondez à cette question?
Mais par l'observation, peut-être je suis un expérimentateur aussi. C'est-à-dire que on observe que le développement des sciences en Europe a été global. C'est fait en même temps que le développement de la démocratie, progressivement, et en même temps que le développement de la démocratie, et c'est fait aussi en même temps pour les sciences dures et pour les sciences humaines et sociales, et sur plusieurs siècles. Alors vous avez un exemple qui a fonctionné, manifestement, et en face, un autre exemple dont il est difficile de dire sur un exemple si l'autre peut marcher. Moi, j'aurais tendance à penser quand même qu'il y a de bonnes raisons de croire que la limitation à la liberté de penser et à l'ouverture est très fondamentalement une limitation à la créativité et à l'avancée scientifique. Mais c'est pas en vous disant ça, je ne démontre rien. C'est presque de l'ordre de la foi. Vous allez avoir beaucoup de chercheurs chinois qui vont vous dire le contraire. Dans le livre de Kai Fu Lee, qu'a mentionné Stéphanie Balm, cette question est balayée d'un revers de main en quelques lignes, en disant bon, écoutez, si effectivement vous faites de la recherche en droit, la question politique se pose immédiatement, mais pour des ingénieurs qui font tourner des algorithmes, finalement, la question politique est totalement hors du champ des réflexions. Je pense que c'est à très courte vue, que c'est pas plus une démonstration, je crois qu'in fine, c'est une question ouverte.
Alors, c'est une question ouverte. Stéphanie Balm, votre réponse.
Une question ouverte que j'ai peut-être un tout petit peu fermée quand même, parce que, si vous voulez, il y a beaucoup de contes, hein, parce que Pierre Lemonde je suis assez d'accord sur beaucoup de points, mais il y a beaucoup de contre-exemples aussi. Nous n'étions pas des états de droit démocratiques en Europe lorsque nous sommes devenus des grandes puissances scientifiques. Par ailleurs, l'Union soviétique a perdu la guerre froide d'une certaine manière, mais aussi était une grande puissance scientifique lorsque c'était un régime qui était très autoritaire. En fait, la question n'est pas si la Chine va ou pas produire de la science dans ce contexte, mais quel type de science ? C'est-à-dire, est-ce que c'est une science qui est respectueuse un minimum de la conscience ? Est-ce que c'est une science avec conscience ou science sans conscience ? Je réalise que c'est un peu simpliste de le dire comme ça, mais c'est-à-dire, c'est véritablement quel type de science on va produire ? Et je crois qu'aujourd'hui, son système politique est en fait un atout, un outil qui lui permet d'arriver à un certain stade, qui est un stade de grande puissance. Ensuite, est-ce que ce stade est soutenable dans le non-interaction avec le reste du monde et compte tenu, on y reviendra peut-être, des grands enjeux qui sont ceux de la diplomatie scientifique aujourd'hui. Par exemple, si on prend la question du génome humain, du trafic de génome humain, la Chine, précisément, a connu quelques scandales récemment.
Ils ont condamné, après avoir admiré le phénomène.
Ils ont finalement condamné
et l'avoir financé.
Est-ce que vous pouvez rappeler à nos auditeurs cette affaire du scientifique
Monsieur
chinois
He Yongkui?
Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'il avait fait, ce docteur He?
Mais il avait modifié génétiquement des embryons humains en implantant ces embryons pour une grossesse et en allant jusqu'à la naissance. Donc il a donné naissance à deux jumelles qui étaient modifiées génétiquement par des techniques de manipulation de laboratoire.
Mais oui, c'est très intéressant.
La première fois qu'une manipulation génétique qui est transmissible, hein, puisque c'est vraiment le génome fondamental de ces deux jumelles qui étaient modifiées, était modifiée par des scientifiques.
C'est ce qui veut dire qu'il y a une sorte de dumping normatif aussi de la part de la Chine, parce que les contraintes normatives, le souci de l'opinion et des droits de l'homme est bien sûr moins importante. Mais pour ne pas parler que de la Chine, je voudrais aussi qu'on dise un mot de l'Europe. L'Europe, et je crois aussi c'est également une de ses caractéristiques, c'est que la construction européenne s'est faite par une mutualisation scientifique, Stéphanie Balm.
Absolument, et c'est bien pour ça qu'il nous faut, nous, à l'échelle nationale, se relier de plus en plus à la stratégie européenne, qui est en fait est extrêmement ambitieuse, beaucoup plus positive qu'on ne le pense. Mais le grand problème de l'Union européenne, c'est qu'elle est faite de technocrates qui ne savent pas bien communiquer. Donc ça, je pense que c'est important de le dire. La création du CERN, par exemple, qui est un outil que tout le monde connaît, qui est un outil de construction de l'Union européenne. La naissance de l'espace de recherche européen. Qui est aussi essentiel.
Le spatial
européen, le grand programme lancé en Sorbonne, du reste, de recherche qui s'appelle Horizon 2020, lancé il y a 7 ans, connu sous le sigle de H2020, qui est en fait un énorme projet de près de 80 milliards d'euros pour financer de la recherche à l'échelle européenne. Le projet actuel d'open access, de savoir ouvert, qui est très utile pour les dépôts de publications, etc., etc. C'est-à-dire que
Mais Stéphanie Balm, je reposerai la même question que je posais à propos de la comparaison Chine-États-Unis. L'Europe a une mutualisation, c'est très bien pour les Européens, c'est très bien pour peut-être le monde occidental. Est-ce qu'elle a une politique derrière? Est-ce qu'on peut parler de diplomatie scientifique européenne alors qu'il n'y a toujours pas de diplomatie européenne ou une diplomatie européenne embryonnaire?
Eh bien, écoutez, soit ils sont l'Union européenne est particulièrement à l'avant-garde, c'est-à-dire a elle une diplomatie scientifique qui va être l'avant-garde de sa diplomatie tout court. Et en fait, c'est d'une certaine manière ce que c'est, mais elle ne pourrait être forte que s'il y a une politique étrangère derrière. Et si aussi les États-nations, je le redis, se relient, déploient au niveau national une politique, une stratégie de diplomatie scientifique qui fait écho à celle-ci. Je vous donne un exemple. Lorsqu'on travaille dans une ambassade et qu'on fait de la coopération universitaire et scientifique, on n'a pas du tout d'idée de ce qu'est la stratégie à l'échelle nationale. Mais en plus, ce qu'on fait dans son coin, on le fait parallèlement à des réunions qui ont lieu dans les délégations, dans les ambassades de l'Union européenne, des pays concernés, sans qu'il n'y ait de lien entre les deux. Voire même, parfois, on est obligé de se justifier en disant « j'ai passé une tête à la délégation européenne pour voir ce que mon collègue de Hongrie ou d'ailleurs faisait en termes de coopération universitaire, ou britannique, ou allemand, etc. » Et là, il y a véritablement un problème de gouvernance, qui est un problème de la gouvernance de la diplomatie scientifique à l'échelle des États.
Pierre Lemonde, il y a un acteur dont on a peu parlé, mais qui est aussi, qui vient compliquer encore le problème. Ce sont bien sûr les entreprises et les départements R&D, c'est-à-dire leurs départements de recherche et développement, et qui ne sont pas, qui sont des entreprises qui peuvent être multinationales, qui ne sont pas, j'allais dire, aux ordres, personne n'est aux ordres d'une ambassade, mais qui ne sont pas nécessairement en lien avec l'ambassade. Est-ce que comment vous situez-vous en tant que physicien la part d'innovation, le poids dans la diplomatie scientifique des entreprises, des entreprises opérant en Chine ou ailleurs? On ne va pas se fixer uniquement sur la Chine.
Oui, écoutez, je pense que c'est un enjeu majeur pour les entreprises, bien entendu. Vous l'avez rappelé, les entreprises ne sont pas aux ordres, ne sont pas liées même structurellement aux États, mais leurs intérêts peuvent converger. Et souvent, ils convergent. Et d'ailleurs, une des grandes dimensions de la diplomatie, c'est la diplomatie économique. On a parlé de diplomatie culturelle. Diplomatie économique pèse un poids qui est au moins aussi important que celui de la diplomatie culturelle, que ce soit d'ailleurs pour les grands contrats ou pour aider les entreprises nationales à travailler à l'étranger. Alors, bien entendu, la dimension innovation est essentielle de manière générale pour les entreprises, mais est essentielle aussi dans sa dimension internationale. Si vous prenez l'exemple de l'intelligence artificielle dont on a parlé, si vous êtes un acteur français de l'intelligence artificielle, il se trouve qu'il n'y en a pas beaucoup, mais si vous voulez être un acteur majeur de l'intelligence artificielle français, vous avez intérêt à avoir accès à un maximum de données, à avoir accès à un maximum de marchés, et donc à être au courant des pratiques du niveau technologique de vos concurrents, et voire d'être placé dans les marchés les plus innovants pour pouvoir vous-même développer vos innovations. Et d'ailleurs, j'ai repris cet exemple-là, Microsoft a installé un de ses principaux centres de recherche à l'étranger sur l'intelligence artificielle en Chine dès la fin des années 90, pour tout un tas de raisons, notamment celle que je viens de mentionner. Donc oui, cette dimension est extrêmement importante et a un impact économique extrêmement important. Il y a différentes modalités pour ensuite le mettre en œuvre, et on peut aussi, et on le fait d'ailleurs, imaginer des mécanismes où on intervient conjointement avec des organismes de recherche, des entreprises à l'étranger. Le CNRS, par exemple, a plusieurs laboratoires conjoints avec des entreprises et des partenaires de recherche étrangers, notamment au Japon, en Corée, à Singapour et en Chine, d'ailleurs, avec l'entreprise Solvay.
Y a des colorants pas marrants, du mazout dans les océans, des trucs bizarres dans nos assiettes, pauvre beefsteak. La petite Juliette et son Roméo tournent à poil dans les films porno. Y'a pas plus d'amour sur pellicule que de fleurs sur le bitume. T'as beau pas être beau, cinglé, j'étais dans la peau. J't'aime, j't'aime, j't'aime.
Y'en a qui dégainent leur pétard pour une poignée de dollars.
Y'a des bombards et des bombaraches qui jouent à cache-cache. KGB à la CIA, le gros Ibi à Mindada. Tu sens à la une des gazettes, pauvre planète.
Ah, t'as beau pas être beau.
France Culture,
Esprit de Justice,
Antoine Garapon.
Faut dire qu'il y a quand même des mecs qui ont du soleil.
Esprit de Justice, toujours sur la diplomatie scientifique, avec Pierre Lemonde et Stéphanie Balm. Stéphanie Balm qui a choisi cette chanson de Louis Chédid.
Absolument.
T'as beau ne pas être beau. Quel rapport avec la diplomatie scientifique?
Ah mais écoutez, ça me paraît être une évidence, moi. D'abord, alors il faut rappeler que c'est une chanson de 78 que beaucoup, j'imagine, de nos auditeurs connaissent, mais surtout
absolument,
parce qu'elle a été, elle a été reprise par Solidarité Enfant-Sida 20 ans plus tard. Et en fait, cette chanson, vous l'avez noté, elle parle de tous les sujets importants qui touchent la diplomatie scientifique, l'alimentation, la pauvreté, le développement, les océans, le climat, etc. Et puis à la manière d'un pessimiste actif, puisque la chanson dit bien que le monde est pas beau, c'est nous qui le détruisons, mais il faut quand même l'aimer, y trouver des solutions. Et j'ajoute que Louis Chédid est le fils d'un biologiste de l'Institut Pasteur, donc c'est un clin d'œil à l'Institut Pasteur.
Alors pessimisme actif, précisément, Stéphanie Balm, qu'est-ce qu'il faudrait faire? La question s'adresse aussi à Pierre Lemonde d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est un nouveau thème, il a surpris tout le monde et notamment nos chancelleries. La France n'est pas nécessairement en avance sur cette question-là, mais les auditeurs auront compris à quel point elle est sensible, elle est déterminante, parce qu'il s'agit demain de nos vies, de notre santé, on le voit tous les jours avec le Covid, du climat et de l'intelligence artificielle. Alors, des pistes de réflexion, des pistes pour agir, Stéphanie Balm.
Des pistes pour agir, pour organiser les meilleures solutions et avancer en tout cas avec des formes de direction. Alors, moi, il me semble de mon côté, ce que je dirais, c'est il y a des solutions qui sont... Alors, premièrement, je reviens sur l'idée, je vais essayer d'être claire. Beaucoup d'acteurs ont déjà trouvé des solutions avant nous, et donc on a tendance maintenant à courir après ces acteurs.
C'est-à-dire ?
Eh bien, les acteurs, ce sont des institutions, y compris des institutions de recherche. Des universités peuvent devenir en soi des formes d'ambassadeurs et d'ambassadrices,
par exemple.
Est-ce
qu'elles n'ont pas compris plus tôt, avant les diplomates, ces enjeux, les universités ?
Alors, oui et non, ça dépend un peu de quel type d'université. Ça dépend à quel point elles sont reliées à l'international. Moi, j'ai l'impression d'être dans une université qui, précisément, est très active en termes de diplomatie scientifique.
À Sciences Po ?
Oui, mais je et puis dans le groupe des universités du U7, dans le groupe des universités University 7, qui est l'équivalent du G7 des universités et qui essaye de porter à l'échelle des universités des thématiques qui sont des thématiques tout à fait universelles, mais qui sont liées à la liberté académique, scientifique, etc. Mais je pensais aussi à, par exemple, une institution qui s'appelle le Forum Scientifique Mondial, l'acronyme anglais est WSF, qui s'appelle le Davos de la science, qui quand même se dit être le Davos de la science. Donc toute une série
d'organisation d'une certaine autonomie de la science.
Une autonomie de la science avec l'idée d'une liberté pour la science, une liberté de la science. Et donc premier type d'acteurs, ce sont des acteurs, j'allais dire, académiques, universitaires. Ensuite, vous avez des acteurs totalement nouveaux, qui sont par exemple les villes globales du type Genève, Miami, Barcelone, etc.
C'est pas un peu un gadget, ça ?
Alors, je crois pas. En tout cas, dans le monde de l'IA et dans le monde de la tech, les groupes de réflexion autour de ces villes globales qui sont un peu basées sur l'idée des villes autonomes pendant la Renaissance, vous savez, comme Bruges ou Florence, etc., dans cette idée de développer une diplomatie propre qui est une diplomatie scientifique là pour le coup et de technologie scientifique autour de villes qui sont des petites Silicon Valley ou qui souhaitent le devenir. Tout ça pour dire que un certain nombre d'acteurs se développent, qui sont des acteurs entre guillemets modernes et nouveaux pour une diplomatie classique, et que la diplomatie classique a tendance à courir un peu derrière. Ensuite, en termes d'autres solutions qu'on peut mettre en place, il y a évidemment la question de la formation des nouveaux diplomates, de la formation
Ils sont réceptifs à ce discours-là, les diplomates.
Des scientifiques. Est-ce qu'ils sont réceptifs ? Écoutez, en tout cas, nous, c'est vrai que c'est un peu notre... On a l'impression d'être là des universitaires qui essayons de travailler pour le bien commun, avec une double expérience de diplomate, entre guillemets, et d'universitaire, et que précisément notre rôle est celui-là. Est-ce que vous me laissez une minute
pour que Pierre Lemonde
puisse nous parler ? Alors, laissons Pierre Lemonde parler, je reviendrai sur
la
formation.
Pierre Lemonde, alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire ?
Oui, il revient une expression qu'on lit parfois dans les articles anglo-saxons sur la diplomatie scientifique, qui est que les diplomates, et il n'est pas facile de mettre dans le même lit des diplomates et des scientifiques. Et je confirme par l'expérience que c'est la réalité. Donc il y a effectivement la question de la formation, mais de manière générale, la question de la connexion.
Et de la culturation réciproque, de faire connaissance.
Exactement. On pourrait d'ailleurs s'inspirer d'initiatives que comprennent d'autres pays. Je pense par exemple à celle d'instaurer des conseillers scientifiques du ministre des Affaires étrangères. Une vingtaine de pays maintenant dans le monde ont des conseillers scientifiques pour le ministre des Affaires étrangères, donc placés très haut dans la hiérarchie du ministère, et des pays pas tout à fait secondaires, hein, comme les États-Unis, le Japon, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, etc. Pas que des pays anglo-saxons, mais des pays africains également.
Qu'est-ce que vous pensez, par exemple, de l'initiative du Danemark d'avoir un ambassadeur du Danemark auprès de la Silicon Valley ? Là, c'est vraiment de la diplomatie scientifique aboutie.
Complètement. Oui, et j'ai eu la chance d'ailleurs de rencontrer cet ambassadeur à Pékin, et donc lui est diplomate, un profil complètement de diplomate, mais il est entouré d'une équipe avec des scientifiques et des diplomates, ce qui lui permet de parler les deux langages. Et ça faisait quelques mois qu'il avait pris ses fonctions quand je l'ai croisé, et il m'a dit « je découvre un monde ». Donc ce genre d'initiative me paraît extrêmement intéressante, et d'ailleurs à l'échelle européenne, enfin le Danemark fait partie de l'Union européenne, hein, c'est le genre d'initiative qui peut être partagée assez facilement.
Stéphanie Balm.
Oui, alors je complète sur la question de la formation qui me paraît essentielle, et pardon si ça semble être de l'autopromotion pour notre institution, mais c'est une démarche qui est tellement importante, il nous semble, et on aimerait libre à tout le monde de piquer les idées. Donc ce que je veux dire, c'est que au niveau de Sciences Po, la contribution qui est la nôtre, elle est double. Au niveau de la licence, nous venons de lancer un nouveau diplôme, qui est un bachelor des arts libéraux et des sciences, qui va dans la continuité continuité de que nous avons mis en place.
De cette acculturation, de cette double culture.
Exactement. Donc cette double culture, on l'a commencé par des nouveaux diplômes il y a quelques années, mais là on va un pas plus loin puisqu'il s'agit de faire des doubles diplômes pour des étudiants qui non seulement vont être compétents en sciences et en humanité, mais surtout c'est ça qui est le plus important, ils vont parler de travailler des problématiques avec des regards différents et vont se former autour de problématiques plutôt qu'autour d'une discipline en particulier. Et enfin, au niveau plus grand, plus âgé, je dirais, au niveau des masters, l'idée est de former des diplomates qui tout de suite intègrent l'idée de diplomatie scientifique. L'expérience est née il y a 18 mois lorsque nous avons lancé les premiers enseignements sur la diplomatie scientifique, et ce que nous avons appris, c'est qu'en réalité, les étudiants qui ont 25 ans, pour eux, c'est une chose ultra naturelle. Oui, c'est-à-dire qu'ils avaient déjà entendu parler de science diplomacy, et ils voulaient simplement qu'on puisse la décliner. Donc on a mis en place une série de thèmes qui sont les thèmes essentiels. Il me semble que cette génération-là sera très très à l'aise en intégrant les diplomaties et les chancelleries d'un point de vue de diplomate scientifique.
Mais il y a quand même une question qui subsiste à la fin de ce panorama sur cette question dont tout le monde voit à quel point elle est centrale, c'est la question de la collaboration, de la coopétition, comme on dit aujourd'hui, coopération, compétition, avec des États totalitaires. C'est-à-dire que on a l'impression, ou j'ai l'impression, que les GAFAM, tout aussi terribles qu'ils sont, ils appartiennent à notre... Il y a la culture libérale chez les GAFAM. Il y a une culture partagée. On n'est pas aux prises avec le Parti communiste chinois. Comment est-ce que vous pouvez cadrer ce débat, parce qu'il ne s'agit pas d'autre chose que de cadrer, que de poser les termes d'un débat, Pierre Lemonde, d'une coopération scientifique avec des États autoritaires. Et j'ai entendu même l'expression dans votre bouche, Stéphanie Balm, de pré-totalitaire. Alors, votre réponse, vous êtes conseiller de diplomate, vous conseillez les princes, qu'est-ce que vous conseillez, quel serait votre conseil pour l'avenir de la coopération scientifique avec la Chine, Pierre Lemonde?
Je pense qu'elle prolonge ce que je vous ai dit précédemment, c'est-à-dire que il est impératif, je pense, de continuer à travailler avec ces États autoritaires. Hein. Le jour où on arrête de travailler avec les États autoritaires, on arrive à la guerre. Hein. L'étape suivante, c'est la guerre. Donc il est impératif de continuer, mais de le faire de manière cadrée. Donc on a parlé de la formation des diplomates, je pense qu'il est important de sensibiliser les scientifiques. Si vous dites aux scientifiques, écoutez, si vous leur dites rien, ce qui est un peu le cas actuellement, si ce n'est le message ambiant qu'ils peuvent percevoir, les scientifiques vont faire leur partenariat en fonction de leurs intérêts strictement scientifiques. Et donc ils iront voir des Chinois, des Russes, des Iraniens, si ça présente un intérêt scientifique. Et le fait est que, vis-à-vis de la Chine, l'intérêt va croissant.
C'est intéressant ce que vous dites, Pierre Lemonde, parce qu'on pourrait dire la même chose pour les entreprises. S'il y a des parts de marché à prendre, eh ben on prend les opportunités de marché. Et on ne voit pas que derrière le marché, comme derrière une science sans conscience politique, du moins, eh bien, il peut y avoir des grands périls.
Oui, effectivement, avec une différence tout de même qui est que la plupart des chercheurs sont fonctionnaires de l'État français. Pour le coup, sont représentent aussi la France à l'étranger. Donc une sensibilisation qui permet aussi au niveau vraiment des laboratoires, des individus, des chercheurs qui font ces partenariats, d'avoir conscience de l'importance diplomatique de leurs actions et éventuellement de la cadrer, de faire un retour sur ce qu'ils ont, sur leur partenariat avec l'étranger, toute cette dimension-là.
Ça veut dire que vous développez une conscience politique chez les scientifiques, parce que c'est pas la culture ordinaire d'un scientifique que de rapporter et de dire de parler à un ambassadeur, c'est-à-dire que là on retrouve quelque chose de l'ordre de la culture démocratique qui peut s'avérer être un handicap, Stéphanie Balm.
Oui, mais à l'inverse, les diplomates sont pas toujours très à l'aise non plus à l'idée de parler à des scientifiques. et parfois, on a pu voir que des scientifiques qui avaient eu la médaille Fields n'étaient pas forcément reçus dans les ambassades parce que la chancellerie locale n'avait pas réalisé l'importance d'une médaille Fields, etc. Donc, je pense que voilà, il y a à part égale une difficulté à comprendre ces deux écosystèmes. En réalité, c'est des mondes dans lesquels on peut rentrer assez facilement si on y est un petit peu socialisé et préparé. Pour répondre à votre question, je dirais que, alors, Pierre Lemond a dit laisser la porte ouverte tout le temps et la coopération, c'est vraiment ce qui devrait éviter la guerre. C'est, je crois que c'est la ligne politique qu'il faut tenir. Rappelons que Roland Marshall, dont vous avez parlé, qui est donc le compagnon de Fariba Abdelha, lui-même a déclaré qu'il était, il n'était pas favorable à l'arrêt de relations académiques, considérant qu'il fallait toujours avec l'Iran. Exactement. Donc c'est un vrai débat. Il faut savoir que c'est un véritable débat au sein des académiques. Alors, je dirais aussi que il nous faut une stratégie, c'est-à-dire que la question qui se pose de peut-on collaborer avec un régime autoritaire, il ne faut surtout pas laisser les chercheurs individuellement résoudre ce problème. Et qu'il faut donc avoir un peu de maturité politique pour savoir avec une doctrine, exactement. Et c'est d'une part pour éviter que les solutions soient laissées à titre individuel à chaque enseignant dans son laboratoire ou devant son cours, que par ailleurs on peut aussi être réaliste en disant qu'il y a des pays qui ne sont pas des démocraties et qui sont des régimes très autoritaires avec lesquels, si on ne coopère pas, c'est moins embêtant que des pays qui, en fait, constituent l'écosystème scientifique global et qui sont déjà tellement imbriqués dans notre propre écosystème scientifique qu'en réalité, on se paye de bons mots en disant qu'on ne coopère pas avec eux, mais on coopère avec eux. Et typiquement, en disant ça, je parle évidemment de la Chine. Et par ailleurs, on peut aussi établir des sujets de coopération privilégiés. Je crois que qui dit stratégie dit aussi un système de priorité, des priorités en fait.
Alors, Pierre Lemond, on parlait de la collaboration et des risques de la collaboration avec un État autoritaire. Est-ce que pour la recherche, dans votre domaine, le domaine de la nanophysique et des semi-conducteurs, est-ce qu'une recherche sans les Chinois serait concevable? Est-ce qu'on n'a pas atteint un degré d'imbrication telle que en fait il n'y a plus de découplage possible? Et ensuite je poserai la question plus politique à Stéphanie Balm-Pierre Lemond.
Oui, c'est intéressant que vous me posiez cette question parce que je me la suis pas posée comme ça en fait sur mon domaine. Oui. Donc mais je
elle est peut-être très naïve, hein.
Non, mais je ne crois pas. Enfin, c'est en particulier pour toute la dimension fondamentale de ce champ de recherche, donc qui n'a pas vocation à déboucher rapidement. Donc pour cette dimension-là, hein, qui n'a pas vocation à déboucher rapidement sur les applications, pour éclairer nos auditeurs, cette dimension fondamentale, ça n'aurait aucun sens. Au-delà du fait que ça serait éventuellement possible, ça n'aurait pas de sens scientifique. Enfin, ça serait quelque chose d'une aberration. J'aimerais ajouter quand même pour...
Oui, un dernier mot, Pierre Lemond, parce que malheureusement, le temps, oui.
Un dernier mot, j'aimerais bien conclure là-dessus, mais c'est très bien. Je pense que dans cette stratégie de diplomatie scientifique, l'échelon européen est central, notamment vis-à-vis des États autoritaires. Il faut aussi que l'on puisse peser de tout notre poids, et le poids de la France aujourd'hui sur la scène diplomatique, y compris scientifique, c'est l'échelon européen qui le rend pertinent.
Stéphanie Balm, un mot de conclusion.
Mot de conclusion, non, on ne peut pas faire sans la Chine, que ce soit sur le plan scientifique ou sur le plan de la diplomatie. Précisément, pour régler les grands enjeux globaux, je vais dire une platitude, pardon, mais les grands enjeux globaux, il faut impérativement intégrer la Chine, qui plus est sur certains sujets, notamment l'environnement, et elle a développé une stratégie de diplomatie scientifique qui donne le ton.
Beaucoup plus performante, bien sûr, bien sûr. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Stéphanie Balm et Pierre Lemond. Je précise pour nos auditeurs que vous êtes en train de rédiger un ouvrage qui sera plus centré sur la Chine, probablement, parce que c'est là où vous étiez tous les deux à la fois scientifiques en sciences humaines et en physique et en ambassade, dans l'ambassade de France, donc qui va sortir, on espère, prochainement aux presses de Sciences Po. Esprit de justice, Stéphanie Balm, Pierre Lemond, Sandrine Chaperon, Catherine Denet, Philippe Mercher, Anne-Pascale Desvignes, Antoine Garapon. À mercredi prochain, 21h.